Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Les Humains et les Machines à son en direct. Oui, l'émission a pris un peu de retard à venir pour ce qui est des podcasts, mais on est enfin là, vous en faites pas, et ce sera aussi rediffusé. La dernière fois qu'on s'est laissé, je vous avais parlé du rock progressif, qui est un genre qui est plutôt associé, on va dire, avec les années 70, soit la fin des années 60, le début des années 70. Et aujourd'hui, on va plancher dans un genre qui, lui, est beaucoup plus proche de nous, puisqu'il se rattache plutôt aux années 80. Nous allons plonger dans la New Wave. Alors, qu'est-ce que la New Wave et d'où ça vient ? La première chose à savoir, c'est que la New Wave, c'est un mouvement qui est une réaction à un autre mouvement qui lui précédait. C'est souvent comme ça en musique. La New Wave est une réaction au mouvement du punk. Le punk, c'est cette qui est aussi un mouvement réactionnaire. On n'est vraiment que dans la réaction. Le punk est un mouvement dont l'objectif est d'être contestataire, mais contestataire de manière assez frontale et brutale. Le principe du punk, c'est de retourner aux racines très brutales, très roots, on dira en anglais, du rock'n'roll, revenant aux origines blues, etc., mais avec un côté beaucoup plus puissant, beaucoup plus distordu aussi. On va beaucoup utiliser des sons distordus dans le punk, et des messages très contestataires. Des groupes qu'on pourra citer seront par exemple le groupe Sex Pistols. Je pense que vous le connaissez. Le punk va continuer d'avoir sa popularité au travers des années 80 et des années 90, en allant sur la scène hardcore par exemple, mais dans les années 80 et 90, au début des années 90 surtout, pendant les années 80, on va avoir un mouvement qui va être une réponse au punk, qui, si sur le fond continue d'être assez nihiliste, assez contestataire, va cependant chercher à être moins frontal et brutal dans son approche. Et ce mouvement-là, ça va être la New Wave et le post-punk. Le post-punk, c'est comme ça qu'on va le qualifier, parce qu'il se caractérise vraiment par une opposition brutale au punk, se caractérise, lui, par un retour à quelque chose de très simple et pop. Le but, ici, c'est de créer quelque chose qui va rentrer dans la tête de l'auditeur. C'est là qu'on va commencer à voir cette construction de morceaux à base de hook, de sorte d'accroche mentale qui vous fait accrocher à la musique et la continuer. Et dans les années 80, l'un des plus grands représentants du post-punk, je pense que vous l'avez deviné quand on a annoncé cette émission, c'est The Cure. The Cure, qui est un groupe qui a été fondé à la fin des années 70. Leur premier album date de 78, Three Imaginary Boys. Aujourd'hui, je vous invite à nous intéresser plutôt à la première partie de la carrière de The Cure, puisque la deuxième partie de la carrière de The Cure est beaucoup plus psychédélique. On va avoir une influence du rock psychédélique, un peu aussi du rock progressif et beaucoup plus pop. Au début de la carrière de The Cure, notamment avec l'album dont on va parler aujourd'hui, 17 Seconds, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus introspectif et beaucoup plus froid dans leur son. On est dans ce qu'on appelle le mouvement de la Cold Wave. Et le morceau dont on va parler aujourd'hui, c'est A Forest. Alors, ce morceau, il a reconnu un certain gain d'intérêt récemment avec, vous le savez, le film L'Amour Ouf. Mais c'est un morceau qui est, pour son époque, on ne s'en rend pas très bien compte, assez moderne. Et pour ce faire, je vous invite avec moi à parcourir pas à pas. On va vraiment parcourir l'intégralité de la chanson, on a le temps pour ça. Et je vais vous montrer des choses au fur et à mesure. Je vous demande de prêter particulièrement attention à la manière dont The Cure va sculpter le son et dans la manière dont on va utiliser à outrance la répétition pour créer quelque chose d'entêtant et de méditatif qui va vous rester en tête. Commençons. On commence du coup par cette ligne de synthé. Alors on est ici sur un modèle plutôt de type Roland Juno 60. Très caractéristique de cette époque-là, le Juno 60. Et on répète en boucle 4 notes. Et on a enfin le riff de guitare qui rentre. Et je vais devoir vous arrêter là pour vous parler du principe des effets. Alors, une guitare, ça fait beaucoup de sons très différents. Vous vous rendrez sans doute compte, en écoutant du métal, par exemple, que le son de la guitare n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre ici. Et pourtant, c'est exactement le même type d'instrument qui va faire les deux choses. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que le guitariste ne joue pas qu'avec sa guitare, mais aussi avec des effets. Et pour ça, je vous ai ramené de quoi vous montrer les effets. Donc, une guitare, de manière classique, ça sonne à peu près comme ça. On n'est pas très bien accordé, désolé. Et si on joue le riff de The Cure sans effet, ça va sonner assez creux et au final assez vide. Ça sonne assez creux et vous avez bien entendu, cette guitare, elle prend beaucoup plus d'espace dans le mix de The Cure. Comment se fait-ce ? Eh bien, c'est grâce aux différents effets que vont utiliser les musiciens. Tout d'abord, au lieu de jouer avec le micro classique, le micro classique qui a un son assez rond, on va jouer tout en bas avec un micro très proche du manche et on va vraiment essayer de gratter la guitare le plus proche possible du manche pour créer cet effet de claquement. Comparé. On rajoute beaucoup plus d'aigus et on a un son beaucoup plus claquant. Premièrement. Deuxièmement, on va ajouter des effets. Le premier effet qu'on va utiliser, c'est un effet qui va donner de l'espace au son, un délai. Ça donne tout de suite une impression d'espace. Mais pour compléter ça, Robert Smith va utiliser sa pédale favorite, une pédale qu'il utilise dans quasiment tous ses morceaux, le flanger. Alors le principe du flanger, c'est assez simple. On va parler beaucoup de termes techniques aujourd'hui. C'est que vous prenez le signal et vous allez le dupliquer et vous allez accélérer et ralentir au cours du temps, de manière en oscillant comme ça, accélération, ralenti, le signal de votre guitare. C'est ce qui va donner ce son-là. Puisque le son va passer son temps à entrer en phase avec lui-même et à se distordre avec lui-même. Et déjà, on reconnaît bien mieux le son caractéristique de ce morceau. Bien, restons-en là pour l'instant et continuons avec l'audio. Écoutez bien en fait. La basse qui va avoir un rôle mélodique, qui ne va plus juste plaquer la basse des accords, mais va avoir un rôle très mélodique. Et d'un coup. Pardon. Et d'un coup. On va revenir un petit peu en arrière. Et d'un coup, on a l'entrée de la batterie qui va d'un coup augmenter le tempo. Le tempo, il va passer d'environ 90 BPM à 100 BPM, ce qui va donner un coup de fouet quelque part au morceau et l'amener dans sa phase suivante. Écoutons ça ensemble. Et vous, écoutez bien, surtout à quel point on est sur exactement la même chose en boucle. On a cette simplicité qui est vraiment caractéristique de la New Wave. Ce qui importe dans la New Wave, c'est de créer une atmosphère sonore. Ce n'est pas tant de faire un voyage émotionnel très complexe comme chez Pink Floyd, dont nous vous avions parlé la dernière fois. Prêtez aussi attention au rôle de la basse qui est très mélodique ici. Avant de commencer à écouter la douce voix de Robert Smith, je vous invite à prêter attention au fait que cela fait à peu près 2 minutes que le morceau a commencé et qu'on n'a toujours entendu aucune voix. On est resté sur exactement le même motif. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tant caractéristique de la New Wave. Dans la New Wave, on a plutôt tendance à commencer rapidement les morceaux et à aller directement à l'essentiel. C'est plutôt quelque chose qui est vraiment caractéristique de The Cure et qui va vraiment s'intensifier dans les années qui vont suivre. Qui est quelque chose qui va plutôt être tiré du rock progressif d'ailleurs, si vous vous rappelez. Echoes commence après 3 minutes sur 23 minutes, 3 minutes d'introduction, et Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd ne commence qu'après 8 minutes d'introduction. Cette caractéristique-là, ils vont vraiment l'amplifier, et dans dans les albums beaucoup plus récents, si par exemple je cite l'album 413 Dreaming, 4-13 Dream, pardon. Avec le morceau d'introduction, Underneath the Stars, ou encore le morceau Plain Song, qui est l'introduction de l'album Disintegration, plus tard dans les années 80, on a quelque chose qui va être aussi avec des très très longues introductions. C'est vraiment quelque chose qui différencie The Cure du reste de la New Wave et de la Cold Wave et du post-punk. Donc maintenant, écoutons la manière dont Robert Smith chante. Et vous verrez que c'est vraiment pas orthodoxe. Il va pas chercher tant à attaquer des notes qu'à faire des expressions de voix. Il chante légèrement faux d'ailleurs, exprès. Voilà. Et là, on vient d'entendre la première fois qu'on bouge de ce motif initial qui est entraînant et répétitif. Alors la question qui peut se poser maintenant, c'est pourquoi faire ça ? Pourquoi cette répétition ? Parce que c'est bien beau de noter qu'il y a une répétition, c'est plus intéressant de savoir pourquoi. Ce morceau a une ambiance extrêmement sombre, et d'ailleurs tout l'album 17 Seconds va être assez sombre. C'est la période très très sombre de The Cure qui va culminer avec l'album Pornography, que je vous invite à écouter. Et ce qui va donner ce côté très sombre, c'est déjà le fait qu'on a un arrangement très minimaliste. À l'époque, il n'y a que 3 musiciens sur scène dans ce morceau-là. The Cure était un groupe composé de 3 musiciens, Simon Gallup, Robert Smith et Tol Hurst, qui est le batteur. Eh bien, avec cette formation très simple et avec tous ces effets qui vont au contraire donner de l'espace, comme le chorus, le flanger que je vous ai montré, ou encore la reverb et le délai, on va donner l'impression qu'on a très peu de musiciens, mais au milieu d'un grand espace, bref, une impression de solitude. Et c'est exactement ce dont parlent les paroles de la chanson, d'ailleurs. On a un effet de très grande solitude, et le fait d'avoir cette ritournelle qui tourne en boucle donne un côté très obsessionnel. Pour parler de la simplicité maintenant du morceau, l'harmonisation du morceau est ce qu'il y a de plus simple. Contrairement aux accords très riches de Pink Floyd ou de Kim Crimson, on va avoir ici des accords les plus simples possibles qu'on puisse faire à une guitare, c'est-à-dire des power chords. On joue uniquement la fondamentale et la quinte, et on enchaîne. Je vais vous essayer de vous jouer à quoi ça sonne.
Comment ça sonne ?
Vraiment, c'est des accords qui sont assez creux, assez vides, mais qui en général sont plutôt utilisés dans le métal d'ailleurs, parce qu'ils vont pouvoir facilement passer à travers une distorsion. Ici, non. Ici, le but, c'est justement de créer cet effet de vide. Et si on poursuit la chanson, on retourne sur cette répétition entêtante qui tourne en boucle. D'ailleurs, la version qu'on écoute actuellement, c'est une version qui dure à peine 4 minutes. Il existe une version de concert qui en dure 10. L'anecdote est assez marrante. L'anecdote est assez marrante d'ailleurs, je vais vous la raconter. Juste après que Robert ait fini son nouveau couplet. D'ailleurs, prêtez attention, il met un effet assez. Il met des effets d'écho aussi sur sa voix, qui vont donner encore cet effet de solitude au milieu de l'espace. Et l'anecdote, donc que je voulais vous raconter, en concert, on leur avait demandé d'abréger leur concert et ça les avait saoulés. Du coup, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'improviser. Robert Smith a carrément improvisé les paroles de la chanson et de faire durer pendant une éternité, 10 minutes, ce morceau, en répétant en boucle et en boucle et en boucle. Ce qui avait mené à quelques dissensions avec l'organisation du festival. L'enregistrement est trouvable sur YouTube. The go was never there. un entre-deux d'ailleurs sur le chant, entre le chant et le cri quelque part. Et même dans les paroles, on a cette répétitivité. Et là, sur la fin du morceau, c'est le moment pour le bassiste de briller. Parce qu'on se, dans le post-punk, ce n'est plus la guitare, avec des grands guitaristes comme David Gilmour ou encore Jimmy Page qui vont dominer leur genre et être les piliers de leur groupe. Non, là, dans le post-punk, c'est vraiment le bassiste qui a le rôle mélodique principal. Mais qui joue toujours sur ce motif répétitif. Cet arrangement qui ne bouge pas et cette batterie extrêmement simple, presque un métronome en fait. Je vous invite à écouter vous-même l'intégralité de ce morceau et puis l'intégralité de l'album 17 Seconds, sorti en 1980. Pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter ça? Alors, ça diffère vachement de ce que je vous ai fait écouter d'habitude. Justement parce que dans cette, c'est une autre manière d'approcher la musique qui est assez intéressante. Au lieu de rechercher la complexité, la narration, etc., on est sur quelque chose qui est beaucoup plus statique. La recherche dans le post-punk, la new wave, etc., c'est pas tant d'exprimer un voyage, grands concepts comme ceux qu'on peut retrouver dans le rock progressif. On n'a pas tant d'albums concepts. Le but ici, ça va vraiment être de créer des émotions et de les transmettre à travers une atmosphère. C'est plus de peindre un tableau que de vous raconter une histoire. Et cette autre approche de la musique, c'est celle qui va dominer à travers toutes les années 80 et qui va aussi prendre le pas dans les années 90, etc. Et notre pop actuel est en fait une héritière directe de ce type de morceaux-là, qui sont assez modernes d'ailleurs, puisqu'ils conviennent encore à un public actuel. En résumé, à travers cet exemple du début de la carrière de The Cure, on a pu s'intéresser au début de la new wave, du post-punk, et aux caractéristiques de ce genre-là. Dans d'autres émissions, nous intéresserons à la suite de la carrière de The Cure et comment ils ont brisé ces codes-là, justement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon direct. Au revoir.
Mais je lance un direct.